Ce matin, Père, nous accueillons ta parole. Nous accueillons ta parole. Nous sommes toute vie éternelle. Oh, nous sommes confiants que nos vies seront encore changées ce matin. Amen. Nous te remercions, Père, pour cette grâce que c'est de pouvoir écouter ta parole en toute liberté, en toute simplicité, et que sa puissance opère en nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ouvrez avec moi dans Apocalypse chapitre 1. Dieu est merveilleux et Dieu communique. Dieu ne nous demande pas d'être ce qui ne nous dit pas comment être. Et c'est ça qui est merveilleux. Cette relation avec Dieu est une communication constante. C'est lorsque la communication fait défaut que les choses vont de travers dans nos vies. Les choses ne vont pas de travers dans nos vies parce que nous sommes confrontés à des difficultés. Les difficultés font partie de l'existence. Les choses vont de travers dans nos vies lorsque nous ne pensons pas comme Dieu pense et que nous n'agissons pas comme Dieu veut que nous agissions. Glory to God. Il en va de même pour les églises. Ce qui est vrai pour l'individu est vrai pour la communauté. La communauté que nous sommes doit penser comme Dieu pense, doit entendre la voix de Dieu, doit savoir ce que Dieu pense d'elle et là où Dieu veut l'amener, doit savoir ce qui est agréable à Dieu et doit faire ce qui est agréable à Dieu, doit aimer ce qui est agréable à Dieu, doit changer pour correspondre à ce qui est agréable à Dieu. Alléluia. Parce que nous avons découvert quelque chose de très intéressant. Nous avons découvert en lisant la lettre de l'apôtre Paul à son fils Timothée que l'Église est l'Église du Dieu vivant. Que ce n'est pas notre église, c'est son église. Nous en faisons partie. Ce n'est notre église que parce que nous faisons partie de sa famille. Mais c'est son église. Et vu que c'est son église, c'est lui qui est le personnage central de l'église. Et c'est lui qui est aux commandes. C'est lui qui décide de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Ce n'est pas le pasteur. C'est lui qui décide de ce qui est agréable, de ce qui n'est pas agréable. C'est lui qui est au centre et c'est vers lui que converge toute notre attention, tous nos efforts, toutes nos actions. Nous ne vivons pas pour que Dieu nous fasse plaisir, nous vivons pour faire plaisir à Dieu. L'église, la communauté locale n'existe pas pour faire plaisir à ses membres, elle existe pour faire plaisir à Dieu. Tout ce que nous faisons n'est pas orienté vers ce qui va être agréable pour la sœur et le frère et un tel et une telle. Tout ce que nous faisons est orienté vers ce qui va être agréable à Dieu. Alléluia. Vous n'êtes pas convaincus? Vous avez toujours pensé que l'église était là pour vous. Non, l'église est là pour Dieu. L'église est l'église du Dieu vivant. Et c'est quelque chose qui nous est particulièrement, quelque chose qui nous est montré de façon particulière alors que nous regardons les lettres de Jésus aux églises. Et dans cette description de Jésus que nous avons vue au premier chapitre, nous voyons Jésus qui marche au milieu des sept chandeliers. Les sept chandeliers, lui-même explique, ce sont les églises. Et il tient dans sa main les sept étoiles, qui sont les messagers de ces églises. Et que certains interprètent comme voulant dire les messagers humains. Parce que messager, le mot que nous traduisons ange, le mot grec veut dire messager. Le messager peut être humain ou céleste. Glory to God. Et Jésus donc serait en train d'écrire à ses serviteurs, qui sont ses messagers dans cette église, dans ces églises, pour leur dire quel est l'état de leur église, pour leur dire ce qu'ils en pensent, du bon ou du mauvais. Et dans deux cas, ils ne trouvent rien de bon à dire. Dans deux cas, ils ne trouvent rien de mauvais à dire. Et dans trois cas, il y a du bon et il y a du mauvais. Et c'est important pour nous de comprendre ces choses et de commencer à laisser Dieu nous parler. Non seulement lorsque nous sommes en autorité, nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes des leaders dans l'église, mais quand nous sommes membres de l'église parce que nous sommes tous concernés. Que Dieu nous parle, qu'il nous montre ce que lui pense. Et c'est tellement important parce que nous, dans nos églises, tout le monde a une opinion. Et souvent, nos opinions sont colorées par nos préférences et parfois par nos péchés. Et nous voulons les imposer à l'église et que l'église suive notre façon de penser. Mais l'église n'est pas la nôtre, elle est celle de Dieu. Ce que nous allons voir ici, c'est ce que Jésus pense de l'église. Et ces sept églises sont représentatives de toutes les églises. Et donc, ces lettres sont censées être lues dans toutes les églises. Et il y a une interpellation qui est faite à chaque individu au sein de l'église. Il y a une interpellation qui vous est faite aujourd'hui. Alléluia! Ces choses sont fondamentales. Elles sont là dans la parole de Dieu. Jésus veut que nous sachions ce qu'il pense de nous. C'est extraordinaire. Et donc, dans Apocalypse chapitre 2, verset 1, il nous est dit ceci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Et que tu es persévérant. Et que tu as souffert à cause de mon nom. Et tu n'as pas lâché. C'est formidable. Que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et fais les premières œuvres. Sinon, je viens à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. J'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Toi, pourtant, ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. À celui qui est dans le paradis de Dieu, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Jésus s'intéresse de près à chaque église. Et quand nous comprenons à quel point Jésus s'intéresse de près à chaque église, qu'il n'est pas simplement en train de bâtir l'église universelle, et qu'il est au loin assis sur son trône, et que maintenant il regarde, il nous laisse faire, nous commençons à apprécier à sa juste valeur l'importance de l'église, l'importance des communautés locales, et l'importance des frères et sœurs. Et quand nous regardons ces différentes lettres, il y a une structure qui est presque identique. Il commence en indiquant à qui la lettre s'adresse. Ici, la question de l'église d'Éphèse. Et certains d'entre vous, vous connaissez bien l'église d'Éphèse, n'est-ce pas? L'église d'Éphèse, c'est cette église qui a été fondée, nous le croyons, par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est arrivé dans cette ville au début avec Priscille et Aquile et il est parti presque tout de suite. Il les a laissés sur place. Et eux ont rencontré un homme qui s'appelait Apollos, qui connaissait un peu mais qui connaissait pas trop, mais qui avait beaucoup de fermeté, et ils lui ont enseigné davantage les choses. Par la suite, l'apôtre Paul est revenu à Éphèse et là, il est resté longtemps. Et cette ville d'Éphèse était une des grandes villes de l'Antiquité. Une ville qui était tellement grande qu'il y avait 200 ou 300 000 personnes dans cette ville. Imaginez, à l'époque. C'est une ville majestueuse. Et aujourd'hui encore, quand vous allez à Éphèse, vous voyez les ruines, il y a encore les ruines de l'amphithéâtre. Un amphithéâtre qui pouvait contenir 20 000 personnes. C'était immense. immense, un énorme temple à la gloire de la déesse Diane. C'était le lieu où la déesse Diane siégeait. Et c'était une idolâtrie inimaginable. Ce n'étaient pas des petites idoles que les gens avaient chez eux, comme c'est le cas dans certains pays. Là, c'est quelque chose d'absolument majestueux. Et c'est, les gens adoraient cette déesse qui était la déesse de la fertilité. Et il y avait beaucoup d'immoralité associée à leur culte. Et récemment, d'ailleurs, les archéologues ont découvert entre la bibliothèque, la bibliothèque qui contenait jusqu'à 20 000 volumes à l'époque, entre la bibliothèque et les maisons closes de la ville, il y avait un tunnel. Pour que vous voyez à quel point l'immoralité était ouverte, était quelque chose de normal dans leur façon de vivre. Et cela faisait partie aussi de l'adoration de la déesse. Et il nous est dit aussi qu'il y avait des banques, que ce temple servait aussi de banque, et les gens venaient du monde entier, les grands souverains, pour déposer l'argent dans ce temple. C'était réellement quelque chose qui dominait toute la ville et qui dominait la vie des gens. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que nous voyons dans le livre des Actes des réactions terribles à la prédication de Paul de la part des personnes qui participaient à ce culte. Donc, une ville assez grande, une ville cosmopolite, une ville qui avait aussi son Sénat, une très, très belle ville. C'est la capitale de la province d'Asie. Quand on parle d'Asie dans la Bible, on ne parle pas de l'Inde ni de la Chine. On parle d'Asie mineure. Toute cette région, il y a la Syrie, la Turquie. Et ces sept églises se trouvaient justement dans la partie ouest de la Turquie. Il y avait aussi beaucoup de magie. Et quand l'apôtre Paul est arrivé dans la ville, la deuxième fois, il est allé prêcher dans les synagogues. Très vite, les choses se sont mal passées et il est allé dans l'école d'un homme qui s'appelait Tyrannus. Il a loué son école et pendant 2 ans, il y a enseigné tous les jours. Lisez dans Actes chapitre 19 et Actes chapitre 20. Il y a enseigné tous les jours. Donc, qu'est-ce que l'on constate d'ores et déjà par rapport à cette église d'Éphèse? C'est que c'est une église qui a connu la prédication de la parole, qui a été fondée avec la bonne doctrine. Et lorsque l'apôtre Paul, après, a pris congé des anciens d'Éphèse, il leur a dit ceci: je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Tous les jours. Si on vous demandait de venir à l'église tous les jours, il y a déjà certains qui ont beaucoup de mal à venir tous les dimanches. Tous les jours, il enseignait, il prêchait. C'était donc un centre d'enseignement, un centre de prédication. C'était aussi un centre missionnaire. Parce que ce qui nous est dit par la suite dans Actes chapitre 19, c'est que toute cette province d'Asie a entendu l'évangile. Non seulement les gens venaient d'ailleurs pour l'entendre, mais ceux qui étaient convertis aussi devaient aller ailleurs pour répandre l'évangile. Un grand réveil, donc, dans notre langage quotidien. En grand réveil, vous allez comprendre aussi pourquoi. Parce qu'il y a eu aussi des manifestations miraculeuses. Et c'est là où il nous a dit que Dieu a fait des miracles extraordinaires par la main de Paul. Vous vous souvenez de ce passage dans le livre des Actes? Et que donc les mouchoirs, les tissus qui touchaient son corps, n'est-ce pas, étaient posés sur les malades étaient guéris. Vous imaginez la ville, tous ces gens qui adorent leur déesse, et il n'y a que ça en centre très cosmopolite, et tout d'un coup vient quelques individus qui commencent à enseigner, prêcher en notre Dieu tous les jours. Et commencent à voir des manifestations miraculeuses, et ils entendent l'évangile. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était tellement puissant que les gens se convertissaient, et contrairement à aujourd'hui où ils se convertissent et après il faut les supplier pendant une année pour qu'ils viennent à l'église, non. Ils se sont convertis et ils ont sorti tous leurs livres de magie. Parce que c'était un lieu où il y avait beaucoup de magie, de choses occultes. Ils ont sorti leurs livres et ils ont fait un grand feu d'artifice. Ils les ont brûlés publiquement. Vous voyez la semence qui a été semée à Éphèse. De grands miracles. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Et c'est aussi l'endroit où les 7 fils de Séva ont décidé de faire comme lui. Ils ont décidé de commencer à chasser les démons, et les démons se sont retournés contre eux. Et les démons leur ont dit, mais Jésus, on connaît Paul, mais et toi, vous êtes qui? Démonstration d'esprit et de puissance, prédication de la parole de Dieu, enseignement de la parole de Dieu. C'est aussi le lieu où il y a une grande persécution. Vous voyez tout ce qui se passe quand une église commence comme il faut. La prédication, l'enseignement, l'évangélisation, la manifestation d'esprit et de puissance et la persécution. Dites amen. À Bahaus, on a appris qu'on n'a pas peur de la persécution. Amen. On n'a pas peur de déplaire. Je ne vous entends pas.
Amen.
On n'a pas peur de la persécution.
Amen.
On n'a pas peur de déplaire.
Amen.
On n'a pas peur de susciter des émeutes.
Amen.
On n'a pas peur d'être mal vu,
Amen.
D'être maltraité,
Amen.
D'être ridiculisé.
Amen.
Au contraire, on se réjouit d'avoir la grâce de souffrir pour le nom de Jésus.
Amen.
C'est un badge d'honneur d'être maltraité à cause de Jésus.
Amen.
C'est un badge d'honneur d'être regardé de travers à cause de Jésus. Vous savez, les gens commencent en vous regardant de travers et après ils commencent à vous dire vous êtes habité par le Saint-Esprit. Comme quelqu'un m'a dit hier. Qui n'est pas converti d'ailleurs. M'a dit, ah oh, je finissais de travailler. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais tu es habité par le Saint-Esprit. Je lui ai dit, comment ça? C'est parce que quand tu travailles, Il y a une sérénité, il y a une force. Il commence à décrire tout ce qui se passe quand je travaille. Je dis, d'accord. Je dis, oui, c'est vrai, je suis habité par le Saint-Esprit, mais pas que quand je travaille, tout le temps. Alléluia! 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 Parce que lorsque les autres sont en train de paniquer, lorsque les autres sont en train de trembler, je sais comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire, l'Esprit de Dieu a toute la science, toute la sagesse, toute la connaissance dont vous avez besoin. Il connaît la biologie, il connaît la technologie, il connaît toutes les vies. Glory to God! Tout ce que vous avez besoin de dire, c'est le Saint-Esprit, aide-moi. Et il vous aide. Alléluia! Donc, il y a eu cette émeute parce que ces gens, il nous a dit au verset 23, chapitre 19, qu'on dénommait Démétrius, orfèvre, fabriquait des temples de Diane en argent. Vous savez comment on fait des petites tours Eiffel? C'était ça pour eux. Ils fabriquaient des miniatures du temple. D'ailleurs, le temple de Diane à Éphèse, était considéré comme une des sept merveilles du monde. Tellement il était extraordinaire. Et donc, il fabriquait des petits modèles pour vendre. Et ces gens qui faisaient cela commençaient à se sentir menacés. L'évangile avait tellement gagné du terrain à Éphèse qu'ils ont commencé à se sentir menacés et ils ont décidé de réagir. Et ils ont provoqué une émeute. Il a rassemblé les autres. Il leur a dit, écoutez, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Ce n'était pas par ferveur religieuse. Mais c'est comme aujourd'hui, n'est-ce pas? On utilise la religion à ses fins. Et les hommes disent, oui, mais la religion est la source de tous les problèmes. Non, c'est ce qui est à l'intérieur de l'homme qui est la source de tous les problèmes. Encore aujourd'hui, les gens font des guerres, soi-disant au nom de Dieu, mais pour des raisons financières, pour des raisons de domination, pour quelque raison que ce soit, et on invoque le nom de Dieu. Et eux, ils allaient créer une émeute. Et après, ils vont dire, ah, mais c'est une guerre religieuse entre les adorateurs de Diane et les chrétiens. Les chrétiens sont encore venus causer des problèmes. On ne doit pas croire en Dieu parce que ça provoque des problèmes. Il vaut mieux que nous soyons tous athées parce que lorsqu'on est dans une religion, c'est la source des problèmes. Voyez ce qu'ils disent. Heureusement que la parole de Dieu nous dit ce qui se passe. Vous savez que notre industrie dépend, notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie. So Paul a persuadé et détourné une foule de gens. Ah, je prie que l'on dise la même chose de vous.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Alléluia. Dans toute l'Asie, en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, et maintenant on invoque la raison religieuse, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les avaient remplies de colère. Vous voyez comment on fait pour... Ils se mirent à crier, « Grande est la Diane des Éphésiens !» C'est mon Dieu qui est le plus fort. C'est mon Dieu. Si ton Dieu est si fort que ça, qu'il se défende. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens compagnons de voyage de Paul. Les pauvres, ils les ont saisis. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'ont empêché. Quelques-uns, même des Asiaques, qui étaient ses amis, envoyaient quelqu'un vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Ce théâtre de 20 000 personnes. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Le désordre régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. Je ne vais pas vous lire toute l'histoire. Vous allez lire l'histoire vous-même. Mais le résultat, c'est que Paul a dû quitter Éphèse. Ils ont réussi à les calmer, le secrétaire qui les a amenés à se calmer et qui s'est mis d'accord avec eux pour dire, bien sûr, nous sommes, écoutez bien, qui est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane? Vous voyez le contexte dans lequel il fonctionnait. Le contexte dans lequel ils annonçaient l'évangile. Le contexte dans lequel vivait cette église d'Éphèse à laquelle Jésus a envoyé cette lettre. Ça nous permet de comprendre ce qu'il leur a dit. Ça nous permet aussi de voir l'application pour nous aujourd'hui en tant qu'église. Et il dit, et de son simulacre tombé du ciel. Vous comprenez à quel point ces choses sont profondes pour ces personnes? Ils sont convaincus que le simulacre de leur déesse est tombé directement du ciel. Donc, remettre cela en question, c'est remettre en question toute leur vie, toute leur existence. C'est inviter la persécution la plus féroce. Mais il les invite à se calmer. Et il demande que Démétrius et ses ouvriers puissent demander audience auprès des proconsuls s'ils avaient des problèmes avec ces gens. Sinon, nous risquons d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Il nous a dit au chapitre 20 que lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Et il a continué à prêcher l'évangile. Alléluia. Ça, c'est le contexte dans lequel cette église d'Éphèse fonctionnait. C'est la situation dans la ville où Paul a établi l'église. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dans notre génération dire que nous vivons au milieu de gens incrédules qui n'aiment pas Jésus et donc nous ne pouvons pas annoncer l'évangile. Donc nous allons simplement nous contenter d'être un bon chrétien et d'évangéliser avec nos vies. Évangéliser avec nos vies, c'est ce que les chrétiens ont trouvé pour ne jamais parler de Jésus et pour cacher leur lâcheté. Mais la foi qui est la nôtre est née au milieu de difficultés. Elle est née au milieu de difficultés inimaginables aujourd'hui. Et elle a prospéré au milieu des persécutions. Et c'est le même esprit qui doit nous habiter. Nous allons voir que ça, c'est quelque chose que Jésus a approuvé. La deuxième chose, lorsque vous voyez la structure de ces lettres, c'est qu'il y a une présentation de l'auteur. Et cela est important. Je vous invite à faire attention. Parce que la présentation que Jésus fait de lui-même est toujours liée à quelque chose qui a été indiqué dans la présentation qui est faite de lui au chapitre 1. Mais il donne un aspect de sa personne, une révélation de sa personne qui est liée à ce qui se passe dans cette église. Ici, Jésus se présente en disant, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Nous avons déjà vu cette description de Jésus. Et il leur explique, voilà, cette lettre vient de votre Seigneur, celui qui est le maître de l'Église. Et là, il est question de la présence de Dieu. Nous allons voir que la question de la présence est importante. La présence, la proximité. La proximité de Jésus. L'implication de Jésus. Son intérêt dans son Église et son autorité dans son Église. Et c'est comme ça qu'il se présente. Comme celui qui est proche, comme celui qui est à côté, comme celui qui est avec eux et comme celui qui a toute autorité. Et la première chose qu'il leur dit, dans les bonnes choses, c'est qu'il dit « Je connais tes œuvres ». Et je me suis un peu arrêtée sur cette connaissance que Dieu a de tout. Cette connaissance que Dieu a de nous, de nos œuvres, de notre façon d'être et de notre façon de faire. Je vous exhorte souvent dans cette église à toujours demander à Dieu ce qu'il pense, n'est-ce pas? Et c'est un des grands défauts que nous avons dans nos vies qui nous empêche de vivre des vies chrétiennes épanouies. C'est que nous ne demandons jamais à Dieu son avis. Nous lui donnons le nôtre. Et souvent, nous allons prier et quand nous commençons à prier, c'est pour lui raconter tout ce qui nous passe par la tête, tous nos sentiments, toutes nos émotions, toute notre perspective, toute notre imagination, toutes les pressions que nous subissons, toutes les difficultés que nous rencontrons, ce qu'un tel nous a dit, ce qu'un tel nous a fait. Seigneur, fais justice. Et si nous nous arrêtions un peu pour écouter, nous entendrons le Seigneur nous dire parfois, tais-toi, repends-toi maintenant. Mais quoi, moi? Mais bien être entré ici. C'est sûrement à elle que Dieu s'adresse, non, à moi. Et ce que Jésus nous montre ici, il dit ça à toutes les églises, je connais. Nous avons besoin de savoir que Dieu connaît. Souvent, nous ne sommes pas sensibles à ce que Dieu connaît. Nous savons vaguement que Dieu connaît, mais ça ne nous dérange même pas. Et nous avons besoin de prier pour être davantage dérangés, davantage touchés par ce que Dieu voit et ce que Dieu sait. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui ne se repentent que lorsque c'est connu des autres. Comme vous voyez, c'est parfois de temps en temps, malheureusement, il y a un prédicateur, encore un autre qui chute. Et là, c'est les larmes, c'est la repentance publique, c'est « j'arrête de prêcher pendant 3 mois ». Mais ça fait 2 ans que tu côtoies cette prostituée, quand même. Pendant 2 ans, en prêchant, en lisant la parole, en conduisant le peuple de Dieu dans le jeûne et la prière. Pas une seule fois, tu n'as entendu Dieu dire « je ne suis pas d'accord ». Je prends des cas extrêmes pour que nous voyions à quel point c'est gros, mais dans nos vies, c'est comme cela. Vous savez, quand vous êtes pasteur, vous entendez beaucoup de choses. Et vous regardez et dites, mais quand même, c'est une évidence que ce n'est pas bon. Comment ça? Mais le Seigneur sait que, et c'est ça le pire, cette absence de sensibilité. Parce que nous estimons que nos prétextes sont bons aux yeux de Dieu. Dieu voit, Dieu connaît, Dieu sait que, et vous pensez que ça veut dire que Dieu approuve. Non. Non. Et le nombre de fois où vous implorez quelqu'un par rapport à quelque chose dans leur vie, et tous ceux qui trouvent à vous dire, oui, mais le Seigneur sait que, le Seigneur sait que, mais le Seigneur sait que, n'empêche que le Seigneur ne veut pas. Parce que nous estimons que nos prétextes sont suffisants aux yeux de Dieu pour justifier tout comportement. Nous allons voir ce que Jésus dit à cette église. Il dit, je connais. Donc nous avons besoin constamment de prier, noter de prier constamment. Seigneur, montre-moi ce que tu vois. Parce qu'il y a ce qu'il voit, nous savons qu'il voit et nous pensons que ce n'est pas grave parce que nous ne sommes pas sensibles à ce qu'il pense. N'est-ce pas? Nous ne sommes dérangés que lorsque Béa est au courant. Ah, maintenant elle sait. Ouf. Si le fait que Béa le sait me dérange, pourquoi je ne suis pas dérangée par le fait que Dieu le sait? Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui doit être cassé. Seigneur, montre-moi ce que tu vois. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des choses que nous ne voyons pas. Dieu voit et nous ne voyons absolument pas. Nous ne voyons, non, pas du tout, tout va bien. Nous ne voyons pas. Et quand Dieu nous montre ce qu'il voit, ah bon? Ah ouais. Amen. Alléluia. Glory to God. Wow. Amen. part à Dieu. Waouh. Pardon, Seigneur. Nous avons besoin de savoir ce que Dieu voit. Jésus dit, je connais tes œuvres. La dureté de cœur doit disparaître. Parce qu'il y a des choses que nous faisons, nous savons que Dieu le sait. Et nous pensons que ce n'est pas grave. Et vous savez, des fois, vous regardez les gens, tout ce que vous pouvez faire, c'est prier. Seigneur, enlève ce cœur de pierre et donne en cœur de chair. Donne en cœur de chair. Comment peut-on être si aveugle, si convaincu de quelque chose qui n'est pas bon? Je connais tes œuvres, dit le Seigneur. Ton travail. Ça, c'est encourageant quand on travaille. Je répète. Je connais tes œuvres. Ton travail, c'est encourageant quand on travaille. C'est moins encourageant quand on ne travaille pas. Mais on a besoin de savoir que Jésus voit. Et que les excuses que nous donnons n'ont pas de valeur à ses yeux. Que les prétextes que nous donnons n'ont pas de valeur à ses yeux. Que ce qui compte, ce n'est pas que la sœur une telle pense que bon, c'est justifié. Non, il ne travaille pas, mais ce n'est pas grave. Non, ce qui compte, c'est que ce que Dieu pense. Et ce que Dieu pense va déterminer ce qui va se passer dans nos vies. Jésus dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail. Il ne faut jamais, 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 jamais arrêter de faire, arrêter de vous donner, arrêter de servir, arrêter de vous impliquer dans les choses de Dieu. Parce que personne ne me dit merci. Méfiez-vous quand on vous dit merci. Vous avez déjà reçu votre récompense. Jésus parle, n'est-ce pas, de ce qui est fait dans le secret. Que personne ne voit. Évidemment, il y a des choses qui ne peuvent pas être faites dans le secret. Si bien elle devait conduire la louange dans le secret, ça risque d'être un peu difficile de suivre. Donc l'idée, ce n'est pas, ah non, 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 pas bah, non, pasteur, non, non, je ne vais pas chanter à la louange parce qu'il faut que je serve dans le secret. Et vous avez toutes sortes de bêtises dans l'église, les gens passent d'un extrême à un autre. Il y a ça que tout le monde doit me voir. Alléluia. Et on pousse la sœur à côté pour qu'on soit plus devant l'église. Ensuite, il y a ceux que, mais non, moi je sers dans l'humilité, pasteur. S'il te plaît, tu sais chanter de la gloire de Dieu et sur toi, viens. Ah oh non, je ne peux pas, non, non. Je suis venue avant pour t'installer et après je vais me mettre dans mon coin, non. Si, pasteur, non, je dois servir dans l'humilité. C'est ça. Je connais tes œuvres, ton travail. Et d'autres traductions parlent de ta labeur. C'est ton travail qui est pénible. Un travail qui est difficile, dans un contexte difficile, dans un contexte où les choses ne sont pas nécessairement favorables. Mais cette église a continué à servir Dieu. Cette église a continué à annoncer l'évangile. Cette église a continué à servir dans l'église. Cette église a continué à participer à l'œuvre de Dieu dans un contexte très, très difficile. Beaucoup de chrétiens sont prêts à servir Dieu si tout va bien. Dès que la bénédiction, ah, la bénédiction est là, pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Oh, Jesus. Dès que les choses sont un peu difficiles dans leur vie, oui. Non, non, je vais servir, mais bon, je passe par le moment difficile. Et alors? Ah non, mais il faut avoir de la compassion, parce que non, en ce moment, je peux... Quoi? C'est justement le moment où il faut se jeter dans les choses de Dieu pour dire, Satan, tu ne mourras pas. Je vis pour la gloire de Dieu, non pour la gloire de moi. Donc, quelles que soient les circonstances de ma vie, quelles que soient ce qui se passe dans ma vie, quelles que soient les attaques qui sont dirigées contre moi, je suis à fond dans l'œuvre de Dieu. Je vais annoncer l'évangile, je vais servir, tout ce qu'il y avait, je suis là. Dans la labeur. Dans la labeur. Quand ce n'est pas facile, quand c'est compliqué, quand ce n'est pas compliqué, quand c'est la grande joie, quand c'est... je suis là. C'est ce que Jésus est en train d'approuver ici. Et c'est ce que nous voulons être en tant qu'Église. Que Jésus regarde nos œuvres, qu'il regarde notre labeur et qu'il dise c'est bien. Nous allons apprendre de ce qui est bon et nous allons apprendre de ce qui est mauvais, n'est-ce pas? Pas pour faire comme ce qui est mauvais, mais pour éviter ce qui est mauvais. Dans Éphésiens chapitre 2, n'oubliez pas, la lettre aux Éphésiens. L'église d'Éphèse a été écrite par l'apôtre Paul de sa prison. Aux alentours de l'année 63, n'est-ce pas? Une trentaine d'années plus tard, Jésus écrit une lettre à l'église d'Éphèse. Et dans la lettre envoyée à travers l'apôtre Paul à l'église d'Éphèse, au chapitre 2, verset 8, il nous dit ceci, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc les choses sont claires. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Alléluia. Mais nous devons faire des œuvres. Dès lors que nous sommes sauvés, nous sommes censés nous mettre à l'œuvre. Demandez à votre voisin, « Est-ce que tu es à l'œuvre ?» Demandez à l'autre voisin qui a fait semblant de ne rien entendre, est-ce que tu es à l'œuvre? En tant qu'Église, nous serons à l'œuvre. Et chaque personne à Abbahaus est censée être à l'œuvre. Chaque personne qui se convertit dans les sept églises, dès le jour où vous convertissez, mettez-vous à l'œuvre. Glory to God. Parce que Jésus connaît nos œuvres. Je connais tes œuvres. Et donc ici, il nous a dit, Éphésiens 2, chapitre 8, au verset 9, « Ce n'est point par les œuvres que personne ne se glorifie. » Au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage. » Donc le fondement doit être clair. Nous ne faisons pas des choses pour être sauvés. Nous faisons des choses parce que nous sommes sauvés. Alléluia. « Car nous sommes son ouvrage. » Et j'ai été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Jésus connaît nos œuvres. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour Abbahaus. Il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi quand tu t'es amené dans cette église. Est-ce que tu es en train de les faire? Ah, oh, good question, child. Mm-hmm. Afin que nous les pratiquions. Donc Jésus leur dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta labeur, ta persévérance. Ce mot persévérance, c'est le mot upomone. Si vous ne connaissez pas la série upomone, prenez-la et écoutez-la. La capacité d'endurer et de vaincre, c'est le sens de ce mot grec. Et c'est un mot qui revient souvent dans les Écritures. La foi chrétienne, ce n'est pas une foi de faible. Nous sommes malheureux, ils nous maltraitent, on attend que Jésus revienne bientôt pour nous chercher. On s'enferme dans nos églises et avec la crainte de parler aux gens de Jésus parce qu'ils vont nous énerver, ils vont nous critiquer, persécuter, insulter, mépriser, frapper, bannir, emprisonner, traiter de secte. Et face à tout cela, nous sommes plus que
vainqueurs.
Alléluia. Thank you, Jesus. Jésus a dit, je connais ta persévérance. Et c'est l'endurance, c'est la capacité de supporter et de vaincre. En d'autres termes, vous êtes ferme dans votre foi. Vous ne lâchez pas. Vous faites face à des situations difficiles. Vous faites face à des persécutions, mais vous continuez. Et vous continuez. Et vous continuez. Est-ce que vous voulez prophétiser sur votre voisin pour lui dire, tu continueras. Et tu continueras. Tu continueras. Et tu continueras. Et tu continueras encore. Et tu continueras encore. Et tu continueras encore. Alléluia, tu continueras. L'endurance. La capacité de supporter et de vaincre. Rester ferme, quelles que soient les circonstances. Il y a des fois, il faut être inflexible. Et les chrétiens qui sont malléables, ils ne veulent pas que je parle de Jésus. Je peux parler de Jésus. Il faut parler de Jésus. Il y a des gens qui ont besoin de l'entendre. Ils l'entendent le lendemain. Et le lendemain. Et le lendemain encore. Et encore. Et encore. Ces gens sont engagés envers l'Évangile. Ils étaient dans une ville. Vous avez entendu la description que j'ai faite de la ville? Ils ne se sont pas laissés séduire. Ils ne se sont pas laissés attirer. Ils ont continué. Ils ont continué. Et Jésus a approuvé cela. Abbahaus, Jésus va approuver notre persévérance.
Amen.
Alléluia. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Jésus approuve leur persévérance, il approuve leur service, il approuve aussi leur pureté de vie et de doctrine. Il y a des gens qui se sont introduits parmi eux, qu'il appelle les méchants, des gens qui s'adonnaient au mal, et ils n'ont pas accepté de les suivre. Ils n'ont pas accepté leur façon d'être et leur façon de faire. Ils sont restés dans la saine doctrine. Ils sont restés dans la sainteté de vie. C'est formidable. C'est formidable. Glory to God. Ah, parce qu'il y aura des tentations au sein de l'Église. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ils ont fait preuve aussi de discernement, la capacité de discerner entre le bien et le mal. Jésus parle de ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Rappelez-vous, l'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, avait parlé des gens qui étaient des faux apôtres. N'est-ce pas? Il les a aussi traités d'apôtres par excellence. Dès le début de l'Église, il y a toujours eu des gens dans l'Église qui essayaient de se faire passer pour ce qu'ils n'étaient pas. Toujours quelqu'un qui a une doctrine nouvelle. Et dans cette lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul les avait mis en garde contre quelqu'un qui viendra prêcher une autre doctrine. Toujours quelqu'un qui a une doctrine nouvelle, on renseigne, on enseignement, une révélation. Et les gens vont arriver, vont essayer de vous attirer sur tel site et tel endroit, vous donner tel livre, parce que vous comprenez, l'évangile de Jésus, c'est trop simple. C'est trop basique. Nous, on est passé à autre chose. Nous, on est dans les choses très mystiques. On a des codes secrets que le Seigneur nous a donnés dans la révélation spéciale nocturne. Et quand ils sont parmi des gens qui sont instables dans leur foi, qui ne sont pas établis sur la saine doctrine, ces gens facilement se laissent fourvoyer. Rappelez-vous, cette église d'Éphèse a été bâtie dans la parole de Dieu. Enseignement. Chaque jour, enseignement de la parole, chaque jour. Et cela a pris. Mais ce qui est formidable aussi, c'est qu'il y a un moment où l'apôtre Paul, une trentaine d'années auparavant, avant que cette lettre ne soit envoyée par Jésus, les avait mis en garde contre des faux docteurs, directement cette église d'Éphèse. Et dans Actes chapitre 20, au verset 29, qu'est-ce qui se passe ici? L'apôtre Paul va retourner à Jérusalem et il sait qu'à partir de là, il va être fait prisonnier. Donc, il ne va pas directement à Éphèse, il va dans une ville voisine et il fait demander les anciens de l'église d'Éphèse. Les anciens sont allés le voir et il a commencé à les exhorter. C'est là où il leur parle du fait qu'il avait enseigné pleinement tout le conseil de Dieu. Mais l'exhortation qu'il leur donne est très intéressante. Verset 29, il dit ceci, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, en parlant aux anciens de l'église d'Éphèse, une trentaine d'années auparavant. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels. » Dans ma traduction anglaise, il parle de loups sauvages. Ça, c'est ce que Dieu pense de tous ces faux docteurs et faux apôtres. Des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. On voit tout le temps cela dans les églises. Quelqu'un arrive avec un titre ronflant et tout le monde commence, « Ah oui, mais c'est un serviteur de Dieu. » On n'en sait rien, non? On n'en sait rien. Se positionne comme un serviteur de Dieu et progressivement commence à introduire ses doctrines. Et les gens qui ne sont pas fermes, tous ceux à qui on dit de faire les cours depuis, qui ne les font pas, sont vite et facilement entraînés. De temps en temps, les gens viennent me dire, mais il y a un pasteur là qui est dans la salle. Je dis, moi, je ne sais pas. Un pasteur est jugé par ses fruits. Un serviteur est jugé par ses fruits. N'importe qui peut arriver ici et dire, ah oui, moi, je suis pasteur. OK, bon, pasteur. Mais on verra par la suite les fruits. De temps en temps, il y a des gens qui m'écrivent. Vous savez, quand vous faites une émission télévisée, tout le monde vous écrit, toutes sortes de gens vous écrivent. J'ai même eu des gens m'écrire pour se présenter comme apôtre. Apôtre pour m'inviter à soumettre notre ministère à leur ministère. Ils sont apôtres, donc ils vont être nos apôtres. Je ne les connais ni d'Ève, ni d'Adam, mais ils sont apôtres. Ils n'ont rien à voir avec ce que Dieu fait ici. Ils n'ont pas été à l'origine de cette œuvre. Ils ne reconnaissent ni d'Ève ni d'Adam. Ils ne savent pas ce que Dieu a dit sur cette église. Mais ils sont apôtres et ils veulent régner sur nous. L'apôtre Paul nous met en garde contre des faux apôtres. Parfois, on a même des gens qui viennent au culte apôtres. Mais quand on est apôtre, on loue le Seigneur.
Amen.
Quand je vois quelqu'un qui vient ici au culte, comme ça a déjà été le cas, qui pendant la louange est comme ça, monsieur, le grand de son état, et pendant la prédication comme ça, et à la fin, me dit, je suis apôtre, je ne suis pas convaincu.
Amen.
La marque d'un serviteur de Dieu, c'est d'abord d'honorer Dieu.
Amen.
Lorsqu'on loue le Seigneur, le serviteur de Dieu n'est pas installé dans toute sa grandeur à nous surveiller et à nous évaluer. Le serviteur de l'Éternel est le premier qui est à genoux pour louer l'Éternel. Et quand on prêche la parole de Dieu, le serviteur de l'Éternel est le premier à dire Alléluia, le premier à ouvrir sa Bible, celui qui montre que non, quelque part ça me parle parce que c'est la parole de mon Dieu. La parole de Dieu nous met en garde contre les faux apôtres. Et Jésus a dit dans son approbation de l'église d'Éphèse, vous les avez éprouvés, ces gens qui disent qu'ils sont apôtres et qui ne le sont pas. Et vous les avez trouvés menteurs. Ce n'est pas nouveau. On n'a pas fait, oh, mais ce n'est pas vrai. Il y a tous ces gens qui disent qu'ils sont ceci et ils ne le sont pas. Ça a toujours été le cas. C'est la nature humaine. C'est pour cela qu'on avait besoin d'être sauvés. On n'était pas beaux. Les gens qui sont tout le temps figés, oh, l'église, il y a des problèmes, l'église. Oui, tu en fais partie. L'église a toujours eu des problèmes. Toujours. Dès le début. Il y a toujours eu des gens qui n'étaient pas régénérés, qui se sont introduits au milieu du peuple de Dieu. Ou d'autres qui ont reçu Jésus, mais n'ont rien laissé faire à Dieu dans leur vie, mais continuaient à se présenter comme ils sont et voulant en plus avoir l'autorité sur le peuple de Dieu. Et Jésus approuve cette église en disant, vous les avez éprouvés, c'est des menteurs et vous avez vu que c'est des menteurs. Et le cri vraiment de mon cœur, c'est que nous soyons ouverts à tous les gens que Dieu nous envoie, mais que nous ne soyons pas facilement pris en otage. Et que nous ne soyons pas pris en otage du tout. N'est-ce pas? Oh oui, le frère, il a cité tout l'évangile de Jean par cœur. Et alors? Est-ce que Jésus l'approuve? N'importe qui peut apprendre par cœur l'évangile de Jean pour impressionner le monde. Et Jésus nous dit ici, l'apôtre Paul, le Jésus à travers l'apôtre Paul dans ce passage, nous dit ici que ces gens veulent simplement entraîner des disciples après eux. Il y a des gens comme cela, veulent des disciples, ils ne veulent pas des disciples pour Jésus, ils veulent des disciples pour eux. Parce que leur sentiment d'importance vient de leur ministère. Tant qu'ils n'ont pas un ministère à eux où les gens sont autour d'eux, ils n'ont pas l'impression de compter pour quoi que ce soit dans le royaume de Dieu. Donc, ils vont aller ici et là, essayer de rassembler des disciples, parce que c'est comme ça qu'ils sont quelqu'un. Et ils n'ont pas à cœur les intérêts de Jésus. Jésus a dit, il faut les éprouver. Tous ceux qui viennent à Barras, on doit les éprouver. On a souvent des gens qui viennent, moi je suis pasteur associé, ok, God bless you. Mais pas à Barras. Jusqu'à ce que tu sois éprouvé. Jusqu'à ce qu'on voit ce que Dieu a mis en toi. Jusqu'à ce qu'on sache qu'on peut te confier des brebis. Jusqu'à ce qu'on sache que quand on te confie des gens, tu ne vas pas les tuer. Que tu ne vas pas juste en faire tes disciples. Tu vas en faire les disciples de Jésus. La parole de Dieu nous exhorte à éprouver les gens qui se présentent comme serviteurs de Dieu. Ah oui, c'est un serviteur. Ah ouais. Et l'église, c'est comme si nous aimons qu'on nous dise ce que nous aimons entendre. Donc, qu'importe. Le reste, tant qu'on nous dit ce qu'on aime entendre. J'ai déjà entendu des choses. Et les gens disent, Alléluia, mais ce n'est pas possible. Comment peut-on applaudir cela? Ce n'était pas le cas de l'église d'Éphèse. Jésus a approuvé le fait qu'ils ont testé ces gens qui ont dit qu'ils étaient des serviteurs de Dieu. Ils ont testé et ils ont vu que ce n'était pas le cas. Parce que notre fruit va montrer ce que nous sommes réellement. Tout le monde peut s'imaginer ce qu'il veut. Tout le monde peut s'imaginer ce qu'il veut. Tout le monde peut aller n'importe où pour se présenter. Moi, je suis. Nous ne savons rien tant que nous ne t'avons pas éprouvé. Et je vous invite à Abba House à ne pas accepter les gens comme ils se présentent. Laissez-les montrer leurs fruits d'abord. À ne pas vous soumettre à qui que ce soit qui vient ici se présenter comme grand serviteur. Si nous reconnaissons cela, nous allons dire que nous reconnaissons en tel. Nous avons vu le fruit de sa vie. Mais tant que nous n'avons pas vu le fruit de sa vie, qu'importe. Qu'importe. C'est ce que Jésus nous dit de faire. Et il approuve l'église d'Éphèse d'avoir testé ces gens. Donc ces gens, ils sont... Regardons un peu cette église. Cette église est solide, n'est-ce pas? Cette église tient même dans la persécution. Cette église est fidèle, cette église est constante. Et cette église sait discerner le bien et le mal. Et sait faire la part des choses entre tous les gens qui se présentent. Sait faire la part des choses. Nous avons eu des gens ici venir qui étaient musiciens, on ne leur a pas demandé de jouer. Parce qu'il faut d'abord être adorateur, n'est-ce pas? Pas juste être musicien. Parce que curieusement, Dieu aime notre louange, même son instrument. Ce qu'il veut, ce sont des cœurs qui lui appartiennent. Nous testons, nous éprouvons pour voir ce qu'il y a dans ces personnes. Et c'est quand elles ont été éprouvées. Parce que si Dieu a mis quelque chose en vous, ne vous inquiétez pas. C'est lui qui va s'arranger pour que ça se sache. Si Dieu ne veut pas que ça se sache, il a une raison. C'est vrai ou c'est faux? C'est qu'il y a quelque chose qu'il voit. Et qu'importe le nombre de cartes de visite qu'on prépare pour se présenter comme prophète interplanétaire. Tiens, pasteur, je suis prophète. Et l'apôtre Paul, c'est tellement important, l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit à Timothée, je vais accélérer, il lui dit, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse. À un moment donné, l'apôtre Paul, en partant pour la Macédoine, il a dit à Timothée, reste à Éphèse. Il lui a donné des consignes, écoutez les consignes, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. D'autres doctrines. Pourquoi est-ce que nous faisons les formations de cours de disciples? Parce que nous formons des gens pour que vous connaissiez la parole, que vous ne soyez pas amenés à droite et à gauche, balayés par tout vent de doctrine. N'est-ce pas? Et pour que lorsqu'on va vous confier une cellule, vous n'emmenez pas les gens ailleurs avec une autre doctrine. Parce que vous avez lu quelque chose ou vu quelque chose sur Internet, vous commencez à l'enseigner dans la cellule sans avoir éprouvé ni testé la chose. Et vous êtes responsable de ce que vous allez égarer. Donc il dit à Timothée, il faut que tu leur dises de ne pas enseigner d'autres doctrines. Jésus aussi, tout en parlant de doctrine, leur parle des Nicolaïtes. On n'a pas beaucoup d'informations sur les Nicolaïtes, mais on savait que c'était une secte hérétique. Des gens qui enseignaient des choses qui étaient contraires aux saines doctrines. Et certains commentateurs disent même que c'est des gens qui amenaient les gens dans l'immoralité. Nous allons voir cela par rapport à une autre église où Jésus parle. Là, malheureusement, ils se sont laissés influencer par les Nicolaïtes. Ici, cette église est solide dans la doctrine. Dites solide dans la doctrine. Alléluia. Elle ne s'est pas du tout laissée emmener ailleurs. Elle est solide. Il dit, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Vous pensez que Jésus ne voit pas? Que Jésus ne voit pas? Jésus voit. Il voit. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit de nous réjouir quand on souffre pour Jésus. Mais il ne faut pas souffrir comme malfaiteur. Beaucoup de chrétiens souffrent comme malfaiteurs. Ils disent, je souffre pour le Seigneur, c'est parce que je suis chrétien que je suis persécuté. Non, c'est parce que tu es méchant que tu es persécuté. Il y avait une série il y a de longues années de cela, parce que j'étais jeune. À la télévision anglaise, ça s'appelait Mixed Blessings. Et c'était l'histoire d'un couple mixte. À l'époque, c'était quelque chose d'assez rare. Et la femme était noire, il avait un frère Winston qui était un personnage. Mais alors, Winston est un personnage, drôle comme tout. Et Winston, il arrivait quelque part, dès qu'on disait quelque chose, c'est because I'm black. De quelque chose ce qu'on dit, c'est parce que je suis noire. Et les gens disaient, non, c'est parce que tu es toi, Winston. Et souvent, les chrétiens, c'est parce que je suis chrétien. Non, c'est parce que tu es toi. Tu as souffert à cause de mon nom. Ces gens n'ont pas arrêté de servir Jésus. Ils ne se sont pas enfermés dans leurs églises pour dire on ne voit plus personne, on ne parle pas, on ne fait plus rien parce que c'est dur pour nous. Non. Ils ont persévéré. Dites persévérer. Et dans tout ça, on aurait pensé que Jésus aurait fait waouh, magnifique, super, extraordinaire, c'est parfait. Une église solide. Une église établie dans la saine doctrine. Une église qui ne s'est pas laissée détourner. Une église qui a tenu dans la persécution. C'est ce que nous voulons être. 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 Pas dès qu'il y a un moment difficile, tout le monde disparaît. Il y a une église que je connais, l'église était bondée. Et après, ils ont pris une salle. Et il y avait beaucoup de travaux à faire dans la salle, il faisait froid. Et les trois quarts des chrétiens ont disparu. Ils ont perdu les trois quarts de leur église. Progressivement, et après, c'était l'hémorragie. Parce qu'ils avaient froid le dimanche. Wow. C'est comme une de mes amies qui, quand elle voyait des gens faire des bêtises, elle se disait, mais parfois, je me demandais, est-ce qu'on a reçu le même Jésus? Elle se demandait si on avait reçu le même Jésus. Il faisait froid le dimanche, donc ils ont quitté leur église. Au lieu de dire non, on va se mettre à l'œuvre, on va travailler, on va tous cotiser, on va mettre un chauffage qui fonctionne, on va faire l'isolation, on va vider nos comptes bancaires pour bâtir la maison de Dieu. Non, on va aller dans une autre église, il fait chaud. Oui, il y a moins de travaux, il y a plein de travaux. C'est cet esprit de client, nous sommes tous les clients du pasteur. On vient le dimanche pour que le pasteur nous serve. Non, je ne veux pas la pomme. Une orange, pasteur, merci. Non, je veux pas ce chant de louange. Non, le chant d'adoration. En ce moment, je sens l'adoration. Mais non, c'est quoi la louange? Elle a interrompu mon adoration. Oh, vraiment, je sais pas si je vais revenir dans cette église. Oh, c'est pas comme je veux. L'équipe de louange me sert. L'équipe d'accueil me sert. Ah, la prédication me sert. J'ai bien mangé. Maintenant, je rentre chez moi. Et si jamais il y a une fausse note, oh! J'ai gâché mon repas. Dès que c'est un peu inconfortable, moi, je suis allée dans cette église parce que là, ils ont des canapés. Et les églises, ils ont des canapés maintenant, tout pour attirer les gens, comprenez? Les fauteuils du ça ne suffit plus, il faut des canapés maintenant. Que les gens se sentent à l'aise, comme s'ils étaient chez eux. Alors, loin de nous de leur demander de s'agenouiller. Ah non, non, non. Leurs genoux vont avoir mal. Cette église était une église sérieuse. Dites sérieuse. Sérieuse. Nous allons être une église sérieuse. Sérieuse. Et quel que soit ce à quoi nous sommes confrontés, nous allons tenir ferme. C'est la situation qui va changer, ce n'est pas nous qui allons changer. C'est la situation qui va changer. Et on aurait pensé que Jésus aurait dit, magnifique, tout est magnifique, tout est magnifique. Franchement, tout est magnifique, tout est magnifique. Nous, quand on voit une église comme ça, on dit, waouh, ah, ceux-là, rien à dire. Mais Jésus avait quelque chose à leur dire. Écoutez ce qu'il leur dit. Mais ce que j'ai contre toi, ouf. Ce que j'ai contre toi. Il n'a pas dit, enfin, il y a un petit truc qui me gêne un peu. Bon, tu es parfait. C'est juste un petit quelque chose. C'est pas grave, c'est un petit quelque chose. Non, il dit, ce que j'ai contre toi. Que tout cela est bon, mais ça ne suffit pas. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. En d'autres termes, on peut avoir la saine doctrine. On peut être sérieux. On peut être fidèle. Il y a des gens, ils sont fidèles. Vous savez que dès que la porte s'ouvre, ils seront là. Il y a des gens, bon, Les gens, ils seront là. Il y a des gens comme ça dans nos églises, fidèles, sérieux, sœurs sérieuses et frères fidèles. Toujours là. Toujours là. Et on pense que, waouh, eux, ce sont, oh, wow, ce sont les plus intimes de Jésus. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Cette église est sérieuse et fidèle. Et Jésus a dit, vous avez abandonné votre premier amour. Le but de la chose, elle est où? C'est l'amour que nous avons pour Dieu. C'est la passion, c'est le zèle. C'est l'intimité, c'est la relation étroite avec Dieu. C'est ça le cœur de la chose. Et ça, vous avez laissé de côté. Et il y a des églises où la doctrine, mais alors l'amour, la passion, le zèle, l'intimité avec Dieu, la ferveur, ça n'y est plus. Mais ça doit changer. Et ce que Jésus dit, c'est que, bon, je comprends, ce n'est pas grave. Non, il dit, souvenez-vous. Souviens-toi d'où tu es tombé. En d'autres termes, ça n'a pas toujours été comme ça. Rappelez-vous, lorsque l'apôtre Paul est allé prêcher dans cette ville, il y a eu un réveil extraordinaire. Et quand il y a des réveils, les gens sont là, oh Jésus, il peut faire la louange pendant 10 heures. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Dans la vie de tous les jours, le premier amour, chaque jour, est-ce qu'il y a encore l'intimité avec Jésus? Ce qui est encore la passion pour Jésus, où c'est devenu une routine. On le fait parce qu'on le fait. Quand on vient de se convertir, quand on vient à l'église, on est comme ça. Je me souviens quand je me convertissais, j'allais à l'église, j'étais excitée. J'étais excitée, je prenais le taxi. Alléluia, quand j'entrais, il y en a. Alléluia, amen! Amen! Je me souviens de mes frères, quand il était encore en fausse pour le Seigneur. Dès qu'on dit, alléluia, avant qu'on entame, amen! Amen! Quand il va rétrograder. Nous aussi. Est-ce que nous avons notre premier amour? Est-ce que nous avons notre premier amour? La ferveur, la passion pour Jésus. La louange, l'adoration, le temps avec Dieu chaque jour, la présence de Dieu chaque jour. Est-ce que maintenant on traîne pour se lever du lit? Quand avant c'était dès que le réveil sonne, alléluia, est-ce que Jésus? Alléluia, est-ce que Jésus? Heureusement que personne ne me voit. C'est comme ça que j'analyse ma vie spirituelle. Ce n'est pas le fait de tomber dans le péché. Comme on a dit hier, si la veille vous êtes, aujourd'hui vous n'êtes pas plus zélé qu'hier, vous avez déjà rétrogradé. C'est Smith Wigglesworth qui avait dit cela. Et donc j'ai pris ça très au sérieux et j'analyse parce qu'il y a des moments comme ça, vous avez l'impression de vivre au ciel. Et pensez que Jésus. Et d'autres moments. Jésus. Amen. C'est le moment de se secouer. Yes. Je ne vais pas abandonner mon premier amour. Jésus leur a dit qu'ils ont abandonné leur premier amour. La pureté doctrinale est bonne, mais ça doit être dans le contexte de la relation intime avec Dieu. N'est-ce pas? Dans le contexte de la relation intime avec Dieu. Yes, Lord. Et une fois, j'étais consciente d'avoir perdu mon premier amour. Parce que quand je venais de me convertir, c'est Jésus, je priais beaucoup, j'aimais Jésus. Et quelques années plus tard, j'aimais toujours le Seigneur. Constamment, comme on dit, j'aime le Seigneur. Mais cet engouement, cette passion, ça n'y était plus. Et j'ai pris conscience de cela. Je bénis le Seigneur de m'avoir aidé à prendre conscience de cela. Et là, j'ai commencé à organiser ma vie. Et vous allez voir ce que Jésus leur dit. Qu'est-ce que Jésus leur a dit comme remède? Il leur a dit, souviens-toi d'où tu es tombé. La première chose, c'est, pensez-y, rappelez-vous. Jésus n'a pas dit, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. Parce que pour nous, c'est juste une question d'émotion. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non. Dis, utilise ton intelligence, utilise ta mémoire, pense. Souviens-toi, comment est-ce que c'était avant, quand tu aimais passionnément Jésus? Comment est-ce que c'était avant, quand tu venais de te convertir, et que tu annonçais l'évangile dans la rue, et que tu prêchais dans l'ascenseur? Elle l'a fait. Et que tu arrivais devant une porte, et que tu leur donnais de s'ouvrir au nom de Jésus, parce que tu n'avais pas les clés. Elle l'a fait. Et vous, tu croyais que tout était possible au nom de Jésus. Souviens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et nous, on pense que tout ça, non, ça c'est la jeunesse. Non. Jésus a dit, c'est ça. Souviens-toi d'où tu es tombé. Pense-y. Comment est-ce que j'étais? Quand j'ai reçu Jésus, et que, comment est-ce que j'étais? Elle a dit, repends-toi. Nous, on n'aurait jamais dit à une église comme ça de se repentir, on l'aurait excusé. Mais Jésus leur a dit de se repentir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Fais tes premières œuvres. Il n'a toujours pas dit, dis-moi que tu m'aimes. Parce que pour nous, on en répond, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Et ça justifie le reste. Non. Dieu n'est pas affamé d'amour. Et parfois, je t'aime, Seigneur, c'est comme des miettes qu'on jette au chien pour qu'il se calme et qu'il nous laisse tranquille. On lui dit qu'on l'aime, bon, c'est bon. Non. Jésus demande une action. Souviens-toi, repends-toi et agis. Souviens-toi, repends-toi et agis. Fais ce que tu faisais au début. Ce que tu faisais quand tu étais amoureux de moi. Et donc, j'ai commencé à faire ce que je faisais au début. Et j'ai mis en place un programme de prière. Ce n'est pas un programme de « je t'aime, Seigneur, je t'aime ». Non, ça ne sert à rien. Si ma vie ne manifeste pas cet amour. Et j'ai mis en place un programme de prière. Et pour moi, c'était comme Jésus, je mettais Jésus en premier. J'avais commencé à mettre la radio en premier. Parce qu'il y avait des émissions à la radio que j'aimais beaucoup. Et ça passait aux heures auxquelles je priais. Donc, j'avais décidé de commencer à écouter la radio. Progressivement, la radio a pris la place de la méditation, de la parole, qui prenait beaucoup moins de temps pour que je puisse écouter mes émissions. Et j'ai dû décider que j'allais divorcer avec la radio et réépouser Jésus. Et je m'en suis très bien portée après. Figurez-vous que les présentateurs n'ont même pas remarqué mon absence. Jésus, lui, avait remarqué mon absence, mais eux n'avaient pas remarqué mon absence. Donc, finalement, ils ne méritaient pas autant d'amour de ma part. Et j'ai commencé à passer ce temps-là avec le Seigneur. Et vous savez, le Seigneur était tellement touché par ça. Une amie à qui je n'avais rien dit est venue me voir et dit, le Seigneur m'a parlé de toi. Le Seigneur lui a parlé, lui a dit ce que je faisais, il lui a dit de me dire de continuer. C'est extraordinaire. L'amour que nous manifestons envers le Seigneur, dans ce que nous faisons, le temps que nous passons avec lui, l'engouement pour lui, pour son œuvre, pour son service, Dieu est sensible à cela. Ça, c'était une des expériences de ma vie qui m'ont bouleversée. J'ai dit, waouh, j'étais là, Lord, waouh. Ça compte, moi, petite personne de mon état, dans une chambre d'étudiant, dans le 5e. Ma présence t'a touché. Le choix que j'ai fait de te mettre en premier t'a touché. Toi, toi, le créateur des cieux et de la terre, excuse me. Pas simplement touché au point où il m'encourage à m'afficher avec toi, mais oui, on voit quelqu'un me dire, Dieu est extraordinaire. Extraordinaire. Et Jésus invite cette église à se repentir et à faire les premières œuvres. Et ensuite, il dit ceci, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est adressé à chacun de nous. Souvenez-vous, Jésus, quand il était sur terre, avait dit la même chose. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il avait dit la même chose. quand il était sur terre, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. L'interpellation est faite à chacun de nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez abandonné votre premier amour? Est-ce que vous êtes dans la saine doctrine? Est-ce que vous avez décidé de persévérer contre vents et marées, de suivre Jésus coûte que coûte? Est-ce que vous avez décidé de lui demander ce qu'il pense de vous? Arrêtez de penser à ce que le pasteur pense. Déjà, je ne vais pas être ton complice. Parce que quand Jésus va reprendre, il faut qu'il me reprenne avec toi. Mais, surtout, en tant qu'Église, nous avons besoin d'avoir des oreilles attentives. Quand nous prions pour notre Église, nous ne prions pas pour que notre volonté soit faite. Nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et on ne se cache pas devant Dieu. Et on ne peut pas le convaincre d'accepter ce qui est inacceptable. Cette église est une église forte, sérieuse, mais c'est une église qui avait abandonné son premier amour et Jésus ne les a pas excusés. Il ne va pas nous excuser. Mais il y a une promesse. Donc, il invite chacun à répondre. C'est une parole pour chacun. C'est une parole pour l'église. C'est une parole pour chaque individu parce que c'est nous qui composons l'église. C'est une parole pour toi. Dis à ton voisin, c'est une parole pour toi. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'oreilles ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des oreilles ici? Jésus a dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a une promesse. On va terminer sur la promesse. La promesse, c'est à celui qui vaincra. Qui vaincra pourquoi? Parce que la vie chrétienne est un champ de bataille. Vous ne saviez pas? Vous pensiez que c'était une croisière de luxe? Non. Tant que nous sommes sur terre, nous allons devoir vaincre, surmonter. Surmonter des attaques, surmonter des oppositions, surmonter notre chair. Surmonter les mauvais désirs qui sont en nous-mêmes. Surmonter les tentations de nous éloigner de la saine doctrine. Nous allons devoir prendre position et surmonter. Et Jésus dit à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu est bon. Souvenez-vous du jardin d'Éden. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé lorsque l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous vous souvenez du fait que Dieu les a chassés du jardin. Pourquoi? Pour qu'ils ne touchent pas à l'arbre de vie. Parce que sinon, ils vivraient éternellement. Et Jésus nous dit ici, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de manger de l'arbre de vie? Oh, glory to God! Ce qui a été refusé à Adam est maintenant offert à l'Église. C'est à nous de décider de vaincre. Nous allons vaincre. Je vais vaincre. En fait, c'est un appel individuel. Je ne peux pas vraiment parler pour vous, sauf de façon prophétique et par la foi, en tant que pasteur de l'Église. Mais chacun peut parler pour lui-même, qui veut dire aujourd'hui, je vais vaincre.
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 Remercions le Seigneur pour sa parole. Alléluia.